la sociologie de la laïcité, dépassement de la sociologie de la religion, point d'interrogation.
Merci beaucoup. Expliciter le programme originel du GSRL peut paraître un retour nostalgique sur les origines. Mais ce regard sur le passé peut aussi constituer un outil pour se projeter dans l'avenir. Car si ce projet scientifique a donné lieu à une marche collective, comme tout projet, il reste un horizon qui incite à continuer le parcours. Lors de son élaboration en 1994, le projet du GSRL doit convaincre les autorités de tutelle de la légitimité de l'entreprise. Il se présente dans cette optique comme l'intégration de l'équipe Histoire et sociologie de la laïcité par le groupe de sociologie des religions. Le programme indique que le futur GSRL va compter en son sein, je cite, « les initiateurs d'une approche sociologique de la laïcité pour continuer à en édifier l'étude dans le champ des sciences des religions ». La sociologie de la laïcité constituerait donc une part de la science sociale des religions. La présentation du programme va même jusqu'à privilégier un autre axe, désigné comme le plus novateur du projet et portant sur les femmes comme analyseurs privilégiés. 20 ans après, cela reste un élément de satisfaction pour le GSRL d'avoir dès l'origine investigué ce champ d'études. Il n'en reste pas moins que le GSR n'est pas devenu le GSRF, mais bien le GSRL. Et le programme, d'ailleurs, énonce à 2 reprises une optique plus ambitieuse que la simple intégration de la sociologie de la laïcité dans la sociologie de la religion. Je cite cette optique, « problématiser la notion de laïcité et renouveler, en partie grâce à elle, l'approche des valeurs. » Et renouveler en partie, grâce à la sociologie de la laïcité, l'approche du champ religieux, des croyances et des valeurs. En 1997, dans le rapport du groupe, cette seconde optique prédomine, tout en gardant la perspective explicitée dès 1994 de 3 acceptions du terme de laïcité. Je vais donc entremêler l'indication des 3 acceptions de 1994 et ce qui en a été dit alors, avec le prolongement de 1997, ceci en effectuant une sorte de florilège de citations des 2 rapports. Première acception, la notion de laïcité française. En 1994, le GSRL part de l'usage social du terme de laïcité, un principe constitutionnel de la France. Dès ce stade, l'analyse de la laïcité en France permet de différencier, à l'inverse de l'historien Claude Nicolet, laïcité et république, s'écartant de la perspective d'une exceptionnalité française. Est construite alors une notion de laïcité française à l'articulation des notions de république et de démocratie. L'État républicain, exerçant un pouvoir spirituel, veut promouvoir la liberté de penser comme obligation de penser par soi-même, refus de tout dogme. Mais la France est également une des démocraties qui prône la liberté de conscience, la libre expression des diverses croyances. Le type idéal laïcité française construit possède donc des traits relevant de 2 idéotypes, république et démocratie. Adoptant cette grille de lecture, le rapport de 1997 note que les affaires de foulard ont provoqué une cassure interne entre des acteurs laïcs, révélant ainsi leur conception divergente de la laïcité. Dès ce premier niveau, la sociologie de la laïcité constitue déjà un apport à la sociologie de la religion, une ouverture vers un champ symbolique plus large que le seul champ religieux. Deuxième acception, de la laïcité française au processus de laïcisation et aux laïcités avec un S. Dès le projet initial du GSRL, la laïcité française n'épuise nullement la notion de laïcité. Les travaux sur l'Union européenne de l'équipe Histoire et sociologie de la laïcité l'ont conduite à distinguer laïcisation et sécularisation. Alors je peux faire court puisque Philippe Portier en a déjà parlé, mais je rappelle que schématiquement, la laïcisation est considérée comme mettant aux prises des forces sociales, religieuses, culturelles, politiques, militaires, dont l'enjeu principal consiste à influencer ou à contrôler l'appareil d'État pour qu'il intervienne comme acteur politique dans la régulation de la religion en tant qu'institution sociale, ce qui circonscrit la laïcisation à être plus un processus à dominante socio-culturelle s'effectuant par le jeu de la dynamique sociale. La notion de laïcisation affecte et questionne la sociologie de la religion en contestant le paradigme de la sécularisation alors encore dominant à un niveau international. La mise en rapport des deux notions, laïcisation et sécularisation, permet l'analyse et de leurs champs respectifs et de leurs articulations et interactions avec des pays qui sont plus sécularisés que laïcs et inversement des pays qui sont laïcs mais pas tellement sécularisés. La sociologie de la religion, dans cette perspective, ne prendrait pas suffisamment en compte l'importance du politique dans les évolutions et les mutations du religieux. À partir de là, le thème de laïcité au pluriel est utilisé car, écrit-on, la laïcité travaille de différentes manières d'autres sociétés que la société française. Il existe des acquis stables de laïcisation qui participent au fonctionnement politique et symbolique de chaque société. À cette donnée de 1994, le rapport de 1997 ajoute que quatre éléments sont communs aux divers processus de laïcisation des sociétés démocratiques. Premier élément, le fondement du pouvoir est considéré comme immanent, fondé sur un contrat social. Deuxième élément, quel que soit le statut juridique des rapports religion-État, l'État est indépendant des Églises. Troisième élément, la citoyenneté est indépendante de la religion. Quatrième élément, les États garantissent la liberté de religion et de conviction, ainsi que le libre exercice du culte, tel que le définissent les grandes conventions internationales. Ce dernier rapport élargit également la perspective de départ en prenant en compte des États-empires post- ou néo-communistes comme la Russie et la Chine, posant la question de l'interchangeabilité entre idéologie communiste et religieuse. Et d'autre part, des États-nations arabes où la laïcité apparaît souvent comme un paravent, ici à une domination confessionnelle, là à celle d'élite, le plus souvent militaire. Troisième exception, la laïcité comme analyseur privilégié. Une troisième exception de la laïcité accentue l'optique du dépassement de la sociologie de la religion. La laïcité est perçue en effet comme un analyseur privilégié de l'état des religions et plus largement, est-il dit, du symbolique dans les sociétés modernes, car, on précise, le religieux se trouve de plus en plus inextricablement mêlé à d'autres biens symboliques, notamment à des valeurs séculières. Il existe donc une structuration symbolique du social, structuration symbolique du social qui englobe et du religieux et du séculier. Énoncée en 1994, cette affirmation prend une plus grande ampleur en 1997, et sert de base à un projet commun à l'ensemble du GSRL intitulé « Religion, laïcité, pluralisme, la construction symbolique du lien social dans les mutations des États-nations et des sociétés modernes ». Les débats internes du groupe s'effectuent, dit-on, à partir d'un consensus. La période actuelle est caractérisée par un intense processus de déconstruction et de reconstruction des repères symboliques qui englobe le croire, le sens, les valeurs, aussi bien sous leur forme religieuse que sous leur forme séculière. L'idée d'un brouillage des frontières du religieux et du non-religieux, déjà présente en 1994, est développée. Et si en 1994, la relativisation des croyances, l'indifférentisme, l'autonomisation de l'éthique frappaient le GSRL, en 1997 s'y ajoute déjà plus nettement la montée de mouvements politico-religieux, ainsi que la question de la structuration identitaire en lien avec la vulnérabilité sociale. De nouvelles articulations se développent entre citoyenneté comme principe politique et nationalité comme appartenance à une communauté culturelle. Dans ce contexte, la participation à des débats sociétaux que le GSRL a eu dès sa naissance a fait prendre conscience au groupe qu'il existe, je cite, « une anxiété profonde devant la fragilisation du lien social ». Il se construit donc une borne implicite où le pluralisme des options devient socialement inacceptable. La question est alors, comment le lien social peut-il se construire symboliquement ? Weber et Durkheim sont convoqués. La référence à Weber consiste à questionner le polythéisme des valeurs. Le pluralisme, si étendu soit-il, ne s'effectuerait-il pas plutôt sur fond d'un monothéisme des valeurs et notamment de la sacralisation des droits de l'homme ? De Weber, on passe alors à Durkheim et à son approche du sacré qu'il mêle aux notions d'idéal, de nouveaux symboles. Mais si Durkheim invoque de façon récurrente ces nouveaux symboles, notamment, il ne les étudie pas systématiquement. Il revient donc au GSRL d'entreprendre cette tâche. Intervient ici la notion de sacré laïque que le GSRL se propose d'investiguer. La construction des États-nations, leur prise de distance à l'égard du religieux, s'est effectuée par diverses entreprises d'inscription du sacré, notamment dans les procédures même de la représentation politique et de la cérémonialisation, et du côté de la notion, dans les fondements même de sa construction. Mais la raison délibérative, l'extension du pluralisme, le relativisme généralisé, un individualisme de type nouveau, la marchandisation, vous voyez beaucoup de phénomènes, et pour la France, la fin du lien entre le système de valeurs républicaines et les perspectives de mobilité sociale, produisent du désenchantement. Retour donc à Weber. Les identités collectives et personnelles se constituent difficilement désormais en référence à un avenir chargé de promesses. L'analyse de ce désenchantement permettrait, dit-on, de mieux comprendre le développement des radicalismes religieux. Dans une configuration de crise du sens, la référence religieuse permet d'exprimer un imaginaire de la continuité et un imaginaire de la totalité. Elle permet également de s'affranchir du cadre des frontières de l'État-nation en affinité avec une dynamique globale de nos sociétés. Le modèle français est questionné. Il est devenu en partie une laïcité du vide. Les recherches faites montrent le peu de cas d'éducation civique effective. Comme la catéchisation décline, la majorité des jeunes Français n'ont pas d'opportunité pédagogique de réflexion ni de discussion sur les questions ultimes, le sens, les valeurs. Le GSRL se propose donc d'étudier le religieux et la laïcité entre désenchantement et nouvelles configurations symboliques. Divers dossiers et thèmes sont énoncés. L'extension même de ce projet lui donne un aspect utopique. A existé, existe et existera toujours alors un risque de routinisation où, faute de pouvoir tenir la promesse de l'utopie du L, laïcité, on se recentre sur ce que l'on sait faire de mieux, étudier divers aspects du R, religion. Cela d'autant plus que la sociologie de la religion est fortement institutionnalisée, contrairement à celle de la laïcité. Pourtant, résister à cette routinisation est constitutif du GSRL et de son originalité. Et l'horizon d'un dépassement de la seule sociologie de la religion grâce à la mise en perspective sociologique de la laïcité reste indispensable à la marche du GSRL pendant ces 20 prochaines années. Remarque conclusive, le dépassement de la sociologie de la religion, un choix de philosophie politique. Dès 1994, le GSRL a refusé de définir ceux qui ne se reconnaissent pas dans les systèmes religieux comme des « incroyants » entre guillemets, et de parler d'eux en termes de manque. Pourtant, socialement, une telle manière de s'exprimer perdure. Elle se fonde sur le postulat implicite que la religion constitue un phénomène universel. Dans une certaine mesure, un postulat socio-anthropologique analogue risque d'être à la base de la sociologie de la religion. Le paradigme de la sécularisation a eu le mérite de mettre en cause sa validité, mais en se fondant, lui, sur le postulat d'une universalisation de la rationalité instrumentale devenant l'infrastructure culturelle du social. Or, en 1975, Cornelius Castoriadis énonçait une autre perspective. Selon lui, la prétention du monde moderne à pousser la rationalisation à la limite l'a conduite à se montrer condescendant à l'égard des représentations imaginaires des autres sociétés. Pourtant, en dépit ou en raison de cette rationalisation extrême, la vie du monde moderne relève autant de l'imaginaire que n'importe quelle culture archaïque ou historique. Fin de citation. Il existe des structures symboliques à travers lesquelles les êtres humains, individus, groupes, sociétés, construisent le sens qu'ils donnent à la vie et au monde, au bonheur et au malheur, à leur rapport à l'espace et au temps. Les conventions internationales parlent de religion et de conviction. Le système symbolique possible. Ces conventions prônent la liberté de religion et de conviction. C'est se fonder sur une philosophie politique qui fait le pari socialement lourd de donner à chacun le pouvoir de choisir le plus librement possible à quel système ou combinaison symbolique il veut se rattacher. Et ceci implique de ne pas donner une valeur universelle à la religion. Ce propos final tente de rejoindre une actualité tragique. L'enjeu politique et social de la laïcité, ce n'est pas la question dérisoire de savoir si l'on peut ou non offrir des repas végétariens dans les cantines scolaires. C'est cette égalité de choix qui, pour certains, est tellement intolérable qu'elle entraîne des mises à mort. Et peut-être la situation du sociologue citoyen consiste-t-elle alors à ne pas renoncer à l'esprit critique à l'égard de sa propre société, à ne pas oublier la condescendance dont parle Castoriadis, et en même temps à tirer les conséquences épistémologiques de ce que cette société a proclamé de précieux, la liberté de conscience. Je vous remercie.